Congo-Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André Dimbouzma, au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Ce samedi 8 février 2025, se tiendra en Tanzanie un sommet conjoint de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, en sigle de la communauté est-africaine EAC. Les chefs d'État de ces deux communautés sous-régionales se réuniront en vue de trouver une solution pacifique au conflit rwando-congolais qui a des ramifications préoccupantes au niveau de toute la région. Ce sommet conjoint fait suite à un accord entre le président de la SADC, Emmerson Mnangagwa, et celui de l'EAC, William Ruto. Pour ces dirigeants régionaux, c'est par des moyens pacifiques qu'il faudra mettre fin à ces conflits à l'est de la RDC, fortement marqués par l'appui des forces rwandaises aux rebelles du M23. Ici est de rappeler que les violences sont loin de s'accorder entre la RDC et le Rwanda pour un accord de paix. Si de son côté la RDC s'en tient au processus de Luanda, exige le retrait immédiat et inconditionnel des forces armées rwandaises et la fin du soutien rwandais au M23. Le Rwanda, pour sa part, conditionne la signature d'un accord de paix entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23 et la neutralisation de FDLR. Que pensez-vous d'une solution régionale pour mettre fin à la guerre à l'est de la RDC? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 9716-80-79. Hippolyte Kapanga est à la mise en œuvre de ce magazine et Julie Feza Bongonda sur la réalisation, la coordination. Nelson Nyombe et Belebela pour l'équipe multimédia. Et au micro, c'est Marcel Ngomombala, tout et à tous. Et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Voilà, encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. On va parler de cette probable solution à la crise à l'est de la RDC avec ce sommet conjoint qui va se tenir ce 8 février 2025 en Tanzanie. Et ce sommet conjoint où on va retrouver les dirigeants ou les chefs d'État des pays de la communauté des développements d'Afrique australe SADC et ceux de la communauté est-africaine et son sigle. Pour commenter ces sujets, si tout va bien, on aura en ligne depuis Lubumbashi notre invité Frédéric Amani. Il est chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est aussi expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix à l'Institut, à l'Est d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Avant d'avoir notre invité, mais aussi d'ouvrir les standards pour avoir les réactions des auditeurs, je m'en vais déjà lire quelques réactions sur la page Facebook. Deux paroles aux auditeurs, bien entendu, il y a des avis favorables, tout comme défavorables. D'abord, cet avis de Christian Kassessé, qui nous écrit depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. À l'heure actuelle, l'option de règlement pacifique des conflits doit être privilégiée pour éviter les drames irréversibles à la République. L'option militaire ayant montré ses limites et celle diplomatique en train d'échouer, le réalisme commande que le gouvernement congolais puisse profiter de ces sommets conjoints et à ses SADC pour mettre fin au conflit en acceptant de dialoguer avec tous les belligérants. Il y a aussi cet avis de Albert Bakama de Kinshasa. C'est une bonne initiative, car toutes les guerres, même la Deuxième Guerre mondiale, a fini par un dialogue autour d'une table. Un autre avis, c'est plutôt défavorable à une solution de paix sur le plan régional. Ça, c'est Kepoche Bakulu qui nous écrit depuis Congolo. J'espère que je n'ai pas massacré son nom. Il nous écrit ceci. Ces échanges ne donneraient rien car ce n'est pas la première fois d'organiser des rencontres pareilles. Les organisations sous-régionales africaines, tous sont dans le jeu, mais notre priorité c'est de trouver la paix à NRDC. Gilbert Katumbi nous écrit depuis Bukavu. Ce sommet serait important pour trouver une solution à cette guerre qui date depuis plus de deux décennies, mais cela poserait des conditions et les conditions seraient de ne pas négocier ni avec le Rwanda et le M23, car ça c'est une humiliation pour les sons de nos chers compatriotes victimes de ces fléaux. Et l'autre condition, ce n'est pas de signer des accords entre les parties en conflit, car si l'Est est en proie à ces conflits, c'est à cause des accords qui ont été signés par le régime précédent et que nos agresseurs réclament, même si on ne veut pas toujours le montrer clairement. Voici des réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. On va au fur et à mesure de ce magazine essayer de lire encore d'autres réactions. Même on me fait signe que notre invité est déjà en ligne, Frédéric Amani. Bonjour.
Bonjour, cher Marcel. Bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette question d'une solution régionale au conflit à l'est de la RDC. Vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes aussi expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix dans l'Institut à l'Est d'Afrique basé à Dakar, au Sénégal. Alors, qu'est-ce que peut vous inspirer un sommet régional pour, enfin, sommet conjoint des deux organisations sous-régionales pour trouver une solution pacifique à la guerre à l'est de la RDC? Il y a notamment ce sommet qui doit se tenir samedi 8 février prochain, et ce sera un sommet conjoint SADC et AC.
Bien, merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat. Ce qu'on peut dire par rapport au sommet conjoint et à ces SADC pour chercher à consolider, à apporter des efforts significatifs afin que la paix et la sécurité reviennent à l'Est, c'est que cette initiative entre en ligne de compte de ce qu'on peut qualifier en relations internationales ou en théorie des organisations internationales, une forme d'institutionnalisation pour une action concertée. Et cette forme d'institutionnalisation pour une action concertée est une forme d'institutionnalisation dans une approche globale pour rétablir la paix et la sécurité. Voilà pourquoi il y a ce sommet conjoint EAC et SADC. Et nous encourageons les initiateurs de cette de ce sommet, mais il faut pas aussi oublier, je dois rappeler ici que ce sommet se tient dans un contexte de crise à l'Est, mais aussi avec des approches différentes. Dois-je rappeler ici que pour EAC, qui est cette organisation à laquelle, bien entendu, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda appartiennent, a toujours, n'est-ce pas, a souhaité que la crise à l'Est soit résolue de manière pacifique au travers, n'est-ce pas, le dialogue ou la négociation entre la RDC et le groupe rebelle. Ce que Kinshasa, depuis un temps, a toujours refusé. Alors que pour la SADC, eh bien, la SADC, elle, prend les deux approches. La SADC est pour l'approche pacifique, voilà pourquoi il soutient la paix des routes de Rwanda. Mais la SADC aussi, d'une manière ou d'une autre, soutient une approche militaire, et qui a expliqué l'envoi depuis l'année passée de ces troupes composées des forces sud-africaines et malawites sur le sol congolais. Mais on doit rappeler que la différence de ces deux approches pose problème, et sur le terrain et sur, n'est-ce pas, la scène internationale, dans la mesure où, pour EAC qui n'a jamais condamné le soutien rwandais ou ougandais au M23 à soutenir l'approche de négociation, alors que la SADC prend les deux approches. Alors, ce sommet est plus important, mais moi je pense qu'il ne fallait pas attendre que, comme les auditeurs l'ont dit, l'humiliation, la prise de Goma et consorts, pour qu'on en arrive là. Moi je pense que ce qu'on doit noter par rapport à ce sommet conjoint qui va s'ouvrir dans quelques jours, c'est que nous pensons que cette fois-ci, il y aura des concessions de part et d'autre, mais un élément important, c'est que nous souhaitons que les accords, ou je ne sais pas, les recommandations qui en sortiront de ce sommet, soient des recommandations coercitives, soit des recommandations qui vont, si vous voulez bien, obliger ou inviter les acteurs, les belligérants, à respecter leurs engagements. Comme vous le savez, ça n'a jamais, ce n'est pas la première fois que la RDC va se retrouver dans des sommets ou à l'issue desquels il y aura des accords signés entre les pays ou entre les rébellions, mais quelques temps après, il y a un volte-face, soit du Rwanda ou de l'Ouganda, ou de la rébellion, pour remettre en cause ce qu'il avait signé. Donc, nous souhaitons ce sommet, mais nous pensons que il y aura des
Frédéric, vous avez, on a quelques soucis apparemment avec votre ligne. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes toujours en ligne, Frédéric Amani? Il me semble que l'invité n'est plus en ligne, mais je lui fais ça. Bongo de clarification va s'en faire rire, hein, pour essayer de retrouver notre invité. Et en attendant, je pense bien qu'on peut avoir des réactions, des auditeurs. Mais vous avez suivi déjà notre invité qui est analyste politique et également chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, qui a dit que cette fois-ci, c'est vrai, il faut voir dans quelle mesure les deux parties peuvent faire des concessions. Mais on doit se souvenir, comme a dit notre invité, c'est pas la première fois que la RDC, au niveau de la sous-région, il y a des sommets pour essayer de rétablir la paix à l'est de la RDC. C'est plutôt la mise en application des accords ou des recommandations issues de tous ces sommets qui posent problème. On espère que cette fois-ci, ça porte différents faits. Signe qu'il est de nouveau en ligne à notre invité. Frédéric, vous êtes de nouveau en ligne, vous m'entendez?
Oui. Oui, je vous entends, je suis en ligne.
Voilà, Frédéric, vous avez dit qu'il faudra d'abord qu'il y ait la mise en application des recommandations qui seront issues de ces sommets, parce qu'absolument tout le monde tient à ce qu'il y ait une solution pacifique à ces conflits à l'est de la RDC. Mais le plus grand problème, c'est cette volonté manifeste, en tout cas, de la part de l'autre partie. Il ne faut pas se cacher à la face, il faut le dire clairement, c'est le Rwanda qui apparemment fait fi de tout ce qui est pris comme recommandation chaque fois qu'il y a un accord de paix. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, comme vous l'avez dit, il faut faire absolument pression sur l'une ou l'autre partie de manière à ce que l'accord de paix qui pourrait être issu de ces sommets conjoints puisse être observé?
Oui, je pense qu'il faut la pression de ces deux organisations sous-régionales, mais aussi la pression de la communauté internationale. Je fais allusion ici au Conseil de sécurité. Alors, et aussi des garanties cette fois-ci, il faut, au-delà des recommandations, des accords qui seront signés pour la paix et la sécurité à l'Est, mais je pense que le sommet conjoint pourra aller loin pour exiger à chaque...
Et voilà, encore des petits soucis avec la ligne de notre invité, Frédéric Amani. Alors, avant de le retrouver, on va accorder la parole aux auditeurs. Il y a déjà deux auditeurs qui aimeraient intervenir. Nous avons Maître Patrick Odia, qui nous appelle depuis le Lubumbashi, Obed Boissa, qui est à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs ce matin. Nous parlons de ce sommet qui va se tenir ce samedi 8 février 2025 en Tanzanie, un sommet conjoint de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, et de la communauté est-africaine, et assez pour trouver une solution régionale au conflit à l'est de la RDC. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro 1699-716-8079.
Parole aux auditeurs.
Nous avons déjà Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis Lubumbashi. Vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour Frédéric Amani et à tous les auditeurs de la radio Capi. Et merci de m'associer à ce niveau du débat. Parler de cette réunion conjointe de la SADC et aussi de l'EAC au niveau de la Tanzanie, laquelle réunion le chef d'État prendra part ou les chefs d'État de certains pays prendront également part, dont le plus essentiel, le chef d'État congolais et les chefs d'État rwandais pourront se rencontrer pour décanter la situation. Je pense que c'est ce que nous avons toujours préconisé, même au niveau interne. Nous avons toujours conseillé utilement au président de la République de participer à un dialogue franc avec les Rwandais pour voir qu'est-ce qu'il faut afin de trouver la question. Maintenant, la question qu'il faille peut-être s'interroger au niveau de cette ou analyser autour de ces ou des enjeux de cette rencontre, est-ce que tous les acteurs sont-ils honnêtes ou seront-ils honnêtes? Là aussi, c'est d'autre part. Est-ce que ça sera la première fois ou la dernière fois que ce sommet pourra essayer de décanter la situation et avoir des recommandations correctives, surtout, qui pourront permettre à ce qu'il y ait la paix? Autant, nous avons vu également les rendez-vous manqués du côté Luanda également. Est-ce que le président Rwandais ne pourra-t-il pas également appliquer la même politique de ne pas se présenter de l'autre côté de la Tanzanie? Et s'il ne sera pas là, quelle sera la suite logique de son absence à ces sommets également? Autant plus que les chefs de l'État, c'est presque, nous sommes dans les dernières minutes de trouver la question de manière diplomatique, de manière, comment dire, par un dialogue ou un consensus également. Et s'il ne sera pas là, quelles seront les conséquences? Est-ce qu'il y aurait-il de mesures coercitives, voire même des actions diplomatiques ou des actes de sanctions contre les Rwandais et Paul Kagame? Cette fois-ci, c'est autour de ces questions peut-être que nous nous posons. Ça, nous ne devons pas essayer de ne pas en parler. Au-delà de son absence également, même s'il sera là, est-ce que tous les présidents sont-ils sérieux et conscients de la tâche ou des conséquences néfastes qui pourront résulter de cette guerre entre le Rwanda et l'Angola, et plutôt le Rwanda et le Congo, d'autant plus que ça pourra peut-être aller dans la guerre sous-régionale également. Est-ce que tous les présidents seront-ils conscients ou sont-ils conscients? Voilà au thème quelques questions que nous pouvons essayer de réfléchir également. Mais d'emblée, je voudrais également signifier, Marcel, vous savez, aussi nous avions décrié la mauvaise politique diplomatique autrefois du chef de l'État ou du gouvernement congolais. Quelle était la politique des chefs de l'État ou du régime Tshisekedi sur le plan diplomatique? Aujourd'hui, la SADC a la volonté, entre guillemets, affichée de pouvoir aider la RDC militairement. Mais c'est bite à de quelques difficultés, d'autant plus que la RDC est membre ou partie intégrante également de l'EAC. Or, l'EAC, nous savons, les Kenyans, les Burundis, j'allais dire les Uganda et les Rwanda sont majoritaires de ce côté-là et tous sont également un peu, entre guillemets, hypocrites également. Est-ce que c'est-tu le moment de pouvoir quitter l'EAC avec toutes les conséquences juridiques? Autant de questions qu'il faut se poser également. Je pense que cette fois-ci, le chef de l'État pourra prendre la parole ensemble avec son homologue rwandais pour trouver et décanter la situation également. Mais nous insisterons que cette fois-ci, qu'il y ait des mesures qui peuvent aller jusqu'à sanctionner les Rwandais, jusqu'à sanctionner Paul Kagame, voire même à prendre des mesures qui pourront envoyer les militaires cette fois-ci au niveau de Goma afin de trouver la solution. Et non s'arrêter tout simplement à faire des déclarations que nous condamnons, nous invitons les Congolais ou les régimes congolais de pouvoir négocier avec les M23. C'est que nous n'allons pas accepter, d'autant plus que nous savons le contenu de leurs recommandations. Ça, le peuple congolais, et si le président de la République qui nous suit en ce moment, qui suit la radio Capi, si vous allez oser prendre négocier avec les M23 directement, je pense que vous allez trahir dans l'histoire des politiques de ces pays, vous allez trahir le peuple congolais. Nous sommes d'accord que le président puisse aller se rencontrer avec son homologue rwandais afin de discuter. Il y a des intérêts, nous les connaissons, des enjeux diplomatiques et même des ressources naturelles qui pourront peut-être faire part d'un certain partage, nous pouvons concéder pour préserver les vies humaines du côté, mais pas pour parler avec les M23, pas pour partir à une table dont nous savons déjà l'issue. Il faudrait également qu'avant même cette réunion, que les chefs de l'État aient initié directement des négociations discrètes avec certains États, les lobbying, pour permettre à ce qu'autour de ces sommets entre la SADC et l'EAC, qu'il y ait également un soutien néfaste, un soutien de grande taille de par les pays de la SADC, parce que nous avons suivi les Malawi et les autres, sont en train de se tirailler. Bref, je voudrais inviter les chefs de l'État à être plus courageux, plus déterminant et surtout être plus malin, non seulement exiger à ce que les déclarations inutiles soient dites à l'issue de ces sommets, mais qu'il y ait des mesures coercitives, des sanctions au cas où Kagame ne va pas se présenter ou au cas où l'hypocrisie pourrait être également démise. Il faudrait également préparer à l'interne afin d'assurer les ressources. Voilà un peu de manière intrinsèque ce que vous avez dit.
Voilà, merci Maître Patrick Odia, député de Boubachi. Donc pour vous, il ne faut pas que ce soit encore un sommet de plus pour rien, mais un sommet qui doit absolument aboutir sur une solution pacifique au niveau régional, surtout qu'il y a, ça sera un sommet conjoint de la communauté du développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté est-africaine. Merci, Maître Patrick Odia, député de Boubachi. Obed Bouissa, vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Et bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs des radios Capi. Je suis ravi d'intervenir concomitamment avec mon ami Patrick Odia. Oui, justement, monsieur Marcel, vous savez, si on revient sur cette question à maintes reprises, c'est parce qu'il y a un intérêt capital. En patriote que nous sommes, nous ne pouvons que proposer les idées, étant donné que nous n'avons pas les moindres monopoles en termes de pouvoir. Mais il tient de préciser qu'au-delà de cette question, il n'y a pas vraiment des gages. Au-delà de la logique qui nous a, en tout cas, mis en place le régime Tshisekedi sur cette situation, il tient de rappeler que la question sécuritaire de la partie est de la RDC était vraiment un objectif phare de Félix Tshisekedi depuis voilà son arrivée au pouvoir. Mais on voit que les approches qu'il avait adoptées ont vraiment expressis verbis accouché d'une souris. Alors, qu'à cela ne tienne, cela me pousse à me poser beaucoup de questions. Puisque aujourd'hui, j'ai comme l'impression que la RDC est de la logique de la fameuse récitation de l'école primaire, les deux chemins. C'est, la RDC est comme un enfant au bout d'une route. Il trouve chemin. D'un côté, on cherche les sanctions contre les Rwandais, et de l'autre, on veut forcément maintenir les restreints pour trouver la paix en allant par des sommets, des négociations en négociation, chose jusqu'à maintenant qui n'essaye pas de nous rassurer grand chose. Mais néanmoins, en plus, je vais encore ajouter qu'au niveau de la diplomatie, il y a vraiment un échec, parce que j'ai essayé de faire une triangulation entre les dire et les faire. La réponse est qu'il y a une distanciation beaucoup plus poussée qui nous dicterait, c'est en tout cas du satisfecit. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre? À ce niveau, on aurait bien voulu voir la RDC activer son hard power en relation internationale. Ça veut dire qu'au niveau interne, on doit restructurer l'armée. On doit restructurer
Obed, s'il vous plaît. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore parlé de ce que vous pensez.
Oui,
non, Obed, s'il vous plaît, parce que les autres veulent aussi intervenir. Jusque-là, la question... Oui. Obed, je vais vous laisser parler, Obed. La question est celle-ci. Que pensez-vous d'une solution régionale pour mettre fin à la guerre à l'est de la RDC? Il y a maintenant deux communautés sous-régionales qui vont se réunir pour trouver une solution à ces conflits rwando-congolais. Alors, que pensez-vous d'une solution? Il y a des médiations qui ont été menées, qui vous avez dit, ça n'a abouti à rien. Mais voilà, maintenant, il y a ces sommets conjoints. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut aboutir à une solution? S'il faut aboutir à une solution, qu'est-ce qui doit être fait? Vous avez suivi, par exemple, Maître Parti Odia qui a dit, il faut pas que ce soit un sommet pour rien. Il faut trouver en tout cas, il faut que tout ce qui va sortir de ce sommet, qu'on fasse en sorte que les deux parties puissent s'y conformer. Et s'il faut avoir de mesures coercitives, il faudra y appliquer. Il faudra en arriver. Voilà.
Oui, mais en tout cas, merci Marcel. Il s'est rappelé qu'en droit international, les sommets vaut, en tout cas, sont pesants pour justement chercher la paix.
Oui.
Mais dans les cas actuels, dans les cas actuels ou dans les cas sous examen, je pense qu'il n'y a pas vraiment dégage, parce que chacune des parties prenantes a son carnet d'adresse. Et dans les carnets d'adresse, on sait exactement qu'il y a des objectifs qui visent chacune des parties prenantes. Mais on sait aussi qu'il y a un non-respect au-delà de tout ce qu'on a pu faire dans les passés. Et cela devait à tout prix nous servir d'une leçon. Mais à ce stade actuel, je trouve que ça sera encore un sommet de trop, et qu'on va aller de sommet à sommet. On va faire voyager les autorités congolaises pour rien. Et à ce stade, je pense que comme le président de la République l'avait dit, il est temps de pouvoir déclarer la guerre. Mais encore une fois, je trouve qu'on n'est pas vraiment, bien placé pour faire la guerre. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le problème, c'est que, est-ce que si nous voulons chercher la paix à ce stade actuel, qu'est-ce que les Rwanda ou les partis prenantes vont proposer? Est-ce que le président congolais ne sera-t-il pas contraint de pouvoir céder, en tout cas, aux demandes des belligérants? C'est ça aussi la question. Puisque c'est comme Patrick Odia a dit, si jamais il acceptait les recommandations des belligérants, est-ce qu'il y aura brassage et mixage? Non, on risque de revenir dans la case de départ. Donc je pense qu'on est au bord du précipice par ces régimes voulus et souhaités, tout simplement. C'est très grave.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Robert, pour éviter de tomber dans ce précipice? Qu'est-ce qu'il faut faire à l'issue de ce sommet?
Moi, je pense que...
Oui.
Bon, il est un petit peu tard pour moi, mais je pense qu'il est temps de pouvoir tirer des conséquences au-delà de tout. Nous devons nous prendre en charge au niveau interne Tout simplement, c'est d'accepter de faire la guerre.
Merci.
Quoi qu'il y ait les conséquences.
Merci, Obed. Depuis Kinshasa, Georges Kilangalanga, vous êtes à Bunyanitouri. Vous avez la parole.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Tout d'abord, je salue l'objectif final. Je salue ce sommet conjoint parce que l'objectif final est trouver une solution à la crise à l'est de notre pays. Mais nous ne croyons pas qu'une solution sortira de ce sommet. Moins encore, nous sommes dubitatifs quant à l'approche politico-diplomatique adoptée par le gouvernement congolais. La guerre à l'est, M. Marcel, a fait environ 3 décennies. Et le pays a tenté plusieurs fois de régler cette question par des voies politiques ou diplomatiques en signant des accords directement avec des pays, soit avec les groupes armés rebelles. Et on connaît le résultat. La RDC a même signé un accord avec les Rwandais, un accord commercial. On a vu même les Rwandais dans notre pays opérer. C'est quoi le résultat? Et qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, le Rwanda sera pour la première fois respectueux des accords ou des engagements signés? Moi, je pense que la situation actuelle de l'Est, si on considère la situation sur terrain, si on regarde la position du Rwanda, la position qu'occupe le Rwanda dans l'EAC, et même la jeunesse de l'AFC de Corneille Nangaa, qui a été plus de racines au Kenya, dans le pays de M. Ruto, il a même défendu Corneille Nangaa. Je pense que Ce constat ne nous permet pas de croire qu'il y aura une solution. À mon avis, si cette guerre se termine sans que le Rwanda subisse des dégâts militaires sérieux, eh bien, la situation de l'Est sera une répétition de l'histoire. La RDC devrait s'appuyer sur le moyen coercitif. C'est ça la solution. Nous avons toujours dit, le gouvernement congolais semble être distrait. Le gouvernement semble être distrait. Penser que la sécurité des Congolais viendrait de la communauté internationale ou des organisations sous-régionales, c'est une fuite de responsabilité, c'est également une trahison. Appuyons-nous sur notre armée, donnons à l'armée les moyens de sa politique et on va gagner. Il faut l'armée, monsieur Marcel. Je dois encore vous rappeler, une chose. En 2012, on a signé des accords avec le M23, le même M23. On est où actuellement? Je pense que le gouvernement ne doit pas fuir ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a des ministres, comme le ministre des Transports, il a laissé d'abord son secteur, il devient ministre de Défense. Alors qu'il était, dans quelques mois ici, avant que moi, il était ministre de la Défense, on a rien vu. On tâtonne, c'est là qui doit être notre sécurité. Et si on oublie l'armée, on privilégie le moyen diplomatique ou le moyen politique, je pense qu'on va tourner en rond. Le Rwanda ne respectera pas des accords. Ça doit être clair. Et les autorités doivent comprendre ça. Le président de la République nous a pas. On a détermination du gouvernement. On a entendu moindre escarmouche. On a entendu une réaction rigoureuse. Où est-ce qu'on en est? La dissuasion reste notre seul rempart. Si on ne met pas l'armée dans des conditions, de bonnes conditions pour gagner la guerre, eh bien, je vous dis, M. Marcel, on fait le lit aux rébellions, après ça, on reviendra après quelques années, on va faire la même émission sur la même question, parce que notre pays semble être différent. Lorsqu'il faut détourner l'argent, on est champion. Lorsqu'on vote le budget, on s'attribue de grandes parts. Mais lorsqu'il faut mettre l'argent sur des domaines clés de l'État, non, il n'y a pas l'argent. Ça, c'est nous sommes victimes de notre propre désorganisation. Voilà. Et moi, je t'invite le chef de l'État et tout ce qui l'entoure de ne pas croire que le Rwanda respectera cette fois-ci les accords.
Voilà, merci.
Appuyons-nous surtout sur notre armée, si nous voulons garantir notre sécurité.
Voilà, pour vous, il n'y a plus de confiance à donner à tout ce qu'il y a comme sommet aux rencontres diplomatiques autour de la question de la paix à l'est de la RDC. Il faut plutôt absolument prendre l'option militaire bien équipée, nos forces armées. les forces armées de la RDC. Voilà, merci Georges Kilangalanga depuis Bounia, Nitouri. Avant de retrouver notre invité et d'autres auditeurs, la seule réaction d'Ephraim Mungunda depuis la ville de Bukavu. En Tanzanie, c'est un sommet comme tous les autres sommets que nous avons connus et que rien ne peut ne venir des chefs d'État africains comme solution à notre mal, tant que l'Occident continuera à fermer les yeux et les oreilles face à notre malheur. Nous avons longtemps sollicité que les grandes puissances et organisations internationales du droit de l'homme condamnent l'agression, ils l'ont fait, mais et puis, aucune action concrète n'a été visible. Les responsables des organisations africaines reçoivent les diktats vis-à-vis des belligérants, preuve d'une mascarade observée dans leur manière de faire les choses avec résistance. Ainsi, on se tromperait de penser à une quelconque solution de paix, car il n'y a aucune volonté du rebelle à pouvoir protéger les vies humaines. Déjà au sud-Kivu, on a la peur au ventre, étant donné des signaux qui ne trompent pas, montrant que la ville de Bukavu, autant donné que on a la peur dans le ventre au niveau de la province du sud-Kivu. Janvier, ça c'était Ephraim Mungunda depuis la ville de Bukavu. Allez, Janvier Ngoy nous écrit depuis Kindu. Je suis contre ce sommet parce que le Rwanda est un pays provocateur. Ce n'est pas la première fois ou encore la deuxième fois que le Rwanda nous cause du tort. Nos autorités peuvent ou n'est pas participer à ce sommet qui, selon moi, ne donnera pas de solution à l'est de notre pays. La seule solution est de nous battre jusqu'au bout. Nous devons nous aussi nous venger du sang de nos compatriotes congolais. Trop, c'est trop. Voilà. Là, c'est Janvier Ngoy depuis qui nous revient au standard pour accorder la parole à Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche.
Oui, bonjour à votre société. Merci beaucoup pour la parole. Nous suivons chaque fois ce qui se passe chez nous et nous assistons quelquefois à des tels forums avec l'objectif de faire savoir que nous avons comme priorité l'éducation au niveau interne et externe. Mais quelquefois, comme citoyen congolais, je crois que l'occasion est là en face de nous pour nous demander si chaque fois que nous nous rencontrons avec les autres, que ce soit au niveau régional, continental ou international, si nous les abordons en ayant vraiment le sens de notre histoire nationale, avec toutes les conséquences que cela a depuis les années des indépendances. Et pour aborder directement ou tenter de répondre directement à votre question, mon cher Marcel, nous le savons tous, et ce qui lie les États, les uns et les autres, ce ne sont pas d'abord des amitiés d'amitié, mais ce sont d'abord des paramètres, des intérêts. Il y a des intérêts économiques, il y a les rapports de force, il y a des visées de positionnement géopolitique et géostratégique, il y a des attitudes hégémoniques, ainsi de suite. Et déjà à ce niveau-là, si vous vous rencontrez avec des gens qui ont aussi parfois des mêmes visées comme vous, vous devez d'abord vous armer de l'intérieur, avoir une bonne organisation interne, une politique solide qui a des visées claires. C'est comme ça que quand vous allez rencontrer vos pairs, vous serez à mesure d'arracher aussi ce qui est convenable ou ce dont vous avez besoin. Et la grande difficulté que nous avons au niveau de la RDC, c'est le fait de faire une politique externe qui n'est pas appuyée par une politique interne solide. Alors, chaque fois que nous allons sur une telle table de négociation, on ne va pas avec des cahiers de charges qui répondent directement aux désidérata de la population, soit au niveau interne ou bien au niveau de ce qui va se faire. Parce que pour le moment, nous allons rencontrer ces gens-là de l'EAC, de la SADC, avec quelle position? Nous savons déjà que dans tel domaine, nous sommes fragilisés, dans tel autre, nous sommes fragilisés. Et plus grave encore, dans les pays qui s'organisent, ceux qui dirigent doivent aussi s'appuyer sur les opinions des penseurs, des observateurs, des analystes. Mais si vous êtes maintenant dans un pays où parfois on vous interdit de raisonner de manière objective, on vous interdit de présenter des pistes de suggestions, on vous dit raisonner seulement en suivant ces créneaux. Mais là, ça devient difficile. Je crois que ces histoires que nous sommes en train de vivre maintenant, on le voyait venir, mais quelque part, on a très mal évalué des situations.
Alors dites-moi, dites-nous Franck, à cette question, Que pensez-vous d'une solution régionale pour mettre fin à la guerre à l'est de la RDC? Vous, qu'est-ce que vous pensez? Que comme l'ont dit certains qui vous ont précédé, que rien ne sortira de ce sommet, c'est un sommet de plus où la RDC ne peut espérer rien. Comme un accord de paix avec l'autre partie, le Rwanda, simplement parce que il y a ceux qui estiment que le Rwanda va toujours s'est campé sur ses positions parce que il tient à ce que la situation à l'est de la RDC demeure comme elle est, ou encore il y a ceux qui estiment qu'il faut absolument que cette fois-ci ça soit un sommet qui va donner des résultats, c'est-à-dire une fois qu'il y aura des recommandations qui seront issues de ces sommets, il faut absolument qu'il y ait, que ça, ces recommandations soient appliquées et qu'il y ait des mesures coercitives pour une ou l'autre partie qui va mettre en application ces recommandations.
Oui, merci beaucoup. Anna Arendt, une philosophe allemande d'origine juive, disait dans ses analyses: une politique nationale qui s'organise en se désintéressant de son passé, de son histoire passée, ne serait pas à mesure de trouver des réponses efficaces par rapport aux besoins de ses citoyens. Par là, pour la paraphraser, je vais dire ceci: nous devons d'abord nous montrer maintenant capables de tirer des leçons de tous ces défis qui sont là en face de nous. Si nous mettons toutes ces leçons ensemble, on va maintenant arriver, on peut établir une feuille de route sur base de nos aspirations, et il nous faut aussi adapter notre discours au niveau de notre diplomatie, parce qu'on dit au malin, à malin et demi. Donc il nous faut l'intelligence, de la sagesse politique et stratégique afin d'abord de tirer notre pays de ce gouffre dans lequel il se voit plongé. Puis des deux, au niveau interne, il faut que les citoyens, que nous comprenions où nous nous trouvons, que nous nous mettions ensemble, que ça soit vraiment une unité réelle, que ça soit pas seulement une unité des paroles, des verbes, de la phraséologie, mais une unité qui serait aussi à mesure de faire voir à tous ceux qui ont le souci de nous diviser que nous voulons rester une république unie, forte et démocratique. Mais pour y arriver maintenant, c'est alors que nous devons aussi voir de l'intérieur qu'est-ce qui n'a pas été. Parce que le plus grand problème, mon cher frère Marcel, c'est que quand on ne fait pas une évaluation de ce qui n'a pas été correctement la fois passée, vous allez maintenant orienter votre avenir sur de mauvaises bases, et à un certain moment, vous allez encore vous retrouver à la même situation. Et je crois que c'est ce qui se répète chez nous. Il faut qu'on arrive à tirer des conséquences, et pour tirer des conséquences, il faut maintenant qu'on se montre sérieux, rigoureux, pragmatique et éloigné dans notre manière de faire de la politique des attitudes de complaisance, de fanatisme, de tribalisme, toutes ces antivaleurs. Voilà, et il faut maintenant joindre à l'art politique des valeurs vraiment républicaines. Voilà. Placer l'homme qu'il faut là où on a vraiment besoin de lui et développer le vrai patriotisme, mais après on verra. Voilà, sinon, merci. On va encore organiser des émissions parce que on ne fait pas tirer des leçons de notre histoire.
Voilà, merci Franck depuis Vienne en Autriche. On revient ici au pays avec notre invité Frédéric Amani qui on avait quelques soucis avec sa ligne, mais on fait signe que c'est bon, mais il est en ligne. Frédéric Amani, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Voilà, vous avez certainement suivi les réactions des uns des autres. Alors, qu'est-ce que vous en dites?
Merci beaucoup pour la parole une fois de plus, et je félicite aussi les compatriotes pour leur réaction. Alors, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Alors, en résumé, c'est que je comprends bien les soucis des uns et des autres, mais je dois rappeler ici, on ne le dira jamais assez, cher Marcel, dans une conduite de la guerre, soit vous gagnez l'ennemi, vous lui imposez votre loi, ou soit l'ennemi vous gagne et vous subissez sa loi. Dans une guerre, lorsqu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, ça peut faire mal à d'autres d'entendre ça, mais c'est ça la réalité. Il faut aller aux négociations ou au dialogue, selon les cas. Alors, il revient aux belligérants de préciser quel format de dialogue ou de négociation auquel nous allons, n'est-ce pas, aller pour que qu'il n'y ait pas retournement de situation. Quelqu'un qui dit que la RDC doit faire la guerre, il n'y a pas de problème, je suis tout à fait d'accord en tant qu'État. Bien, pour faire la guerre, il y a une condition, cher Marcel. Il y a des préalables au niveau interne qui doivent être remplis. Il y a aussi des préalables au niveau externe qui doivent être remplis. Parmi lesquels, on ne peut jamais mener la guerre sans avoir les alliés. L'exemple de l'Ukraine en est un. Aujourd'hui, l'Ukraine tient face à la Russie grâce à ses alliés, l'OTAN. Aujourd'hui, Israël tient à la guerre face à Hamas grâce à ses alliés, les États-Unis. Et vice-versa, la Russie aussi tient grâce à ses alliés, la Corée du Nord et consorts. Le Hamas tient grâce à ses alliés, le Liban et consorts, voyez-vous. Donc, je suis d'accord pour la guerre, mais on doit évaluer les alliés de la RDC pour apporter le soutien face à cette guerre. Mais il ne faut pas aussi oublier que la guerre a des conséquences collatérales. La guerre a des conséquences imprévisibles. L'exemple de Goma ici devrait interpeller et les dirigeants et la rébellion pour ne plus, n'est-ce pas, laisser la guerre, parce que aujourd'hui Goma doit prendre encore du temps pour se reconstruire, voyez-vous. Et un autre élément. Et moi, je pense que les organisations internationales cherchent à promouvoir la paix. Or, pour avoir la paix, ils vont aller par les négociations ou les dialogues. Comme je l'ai dit, il faut que les acteurs donnent des garanties d'application des recommandations qui vont sortir de ces assises. Ça, c'est de un. Mais de deux, il faut aussi que ces assises aient un caractère coercitif. Or, pour que ces caractères coercitifs soient d'application, il faut que la communauté internationale veille à cela. Sans cela, eh bien, je crois qu'on va continuer à tourner à rond. Les sommets, il y en a eu, les accords, il y en a eu, mais quelques temps après, il y a eu un volte-face, soit du Rwanda, soit de l'Ouganda, ou soit d'un autre acteur, pour ne plus appliquer de bonne foi, alors que l'un des principes sacro-saints du droit international, pacta sunt servanda, c'est-à-dire les accords sont signés entre les États pour être appliqués de bonne foi. Voilà pourquoi la bonne foi intervient lorsqu'il s'agit des acteurs, à l'occurrence les États. Quand ils signent les accords, ils doivent les appliquer de bonne foi. Je pense que cette bonne foi devrait aussi être appuyée par la coercition, par, n'est-ce pas, une pression de la communauté internationale et de ces organisations qui vont servir de bons offices. Ça, c'est un. Des deux ou des trois, je pense que, comme l'un des intervenants l'a dit, il faut savoir tirer les leçons du passé. Et cela passe par la désignation des acteurs ou des membres du gouvernement. Je pense que, M. Marcel, on doit avoir le courage de le dire. Je crois que aussi l'un des problèmes, c'est que on a beaucoup de flatteurs. On a beaucoup de fanatiques auprès de nos autorités. Et cela nous pose des problèmes. Je pense qu'en tirant les leçons du passé, c'est-à-dire certaines erreurs qu'on a eu à commettre dans les choix stratégiques, que ce soit pour la question de l'Est ou pour la question de nos alliés, eh bien, je pense que cela aussi dépend des flatteurs, des fanatiques ou des gens qui crient à la longueur des journées Fatih Béton sans lui dire ce qui doit être fait et se contenter seulement de sauvegarder leurs intérêts. Ça pose problème et je pense que ça va nous aider à corriger ces erreurs. Pour terminer, moi je pense que nous attendons de ces sommets et, je vais dire de deux manières. C'est que On va à ces sommets, pas pour que ces sommets fassent le travail que la RDC doit faire. Nous allons à ce sommet comme d'habitude, mais nous attendons de ces sommets des efforts significatifs. La RDC est en train de faire sa part des responsabilités, mais nous ne pensons pas que ces sommets soient un sommet de plus où on va entendre nous invitons le Rwanda à cesser le soutien au M23, nous invitons la RDC à négocier avec le M23 ou à dialoguer selon les cas, nous invitons à d'autres groupes rebelles à passer à la reddition. Ça, c'est déjà entendu. Mais au-delà de ça, nous pensons que au niveau interne, comme on l'a toujours dit, la politique interne, comme je crois c'est Franck qui l'a dit, doit être en adéquation avec les ambitions internationales de la RDC. C'est-à-dire, la définition de la politique étrangère de la RDC doit, n'est-ce pas, avoir ses racines au niveau interne. et parmi lesquels, voilà pourquoi, n'est-ce pas, l'animation ou la désignation des animateurs des différents ministères clés doit, n'est-ce pas, dépendre de cette définition-là de la politique étrangère. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que nous attendons du sommet EAC-SADC qui va s'ouvrir pour la crise à l'Est, c'est que nous pensons que des recommandations coercitives doivent sortir de là, mais ces recommandations doivent aussi dépendre des garanties que chaque acteur va donner. Ça, c'est des trois. La communauté internationale devrait se sentir interpellée au nom du devoir humanitaire face à ce qui se passe à l'Est. Eh bien, la communauté internationale doit agir. Et des quatre, nous pensons que la RDC, il est grand temps de tirer les leçons du passé par rapport à tout ce qui a eu, eh bien, de former, de mener des réformes significatives dans son appareil militaire, dans son appareil sécuritaire, pour que demain après demain, il n'y ait pas retournement de la situation.
Voilà, on va vous donner le temps de conclure, Frédéric Amani. Permettez-nous d'accorder la parole à des derniers auditeurs et puis vous allez conclure. Nous avons Mathieu qui est à Kisangani, éminent Mwanda. Bukavu, Mathieu, vous avez la parole pour 2 minutes.
Merci beaucoup. Hein. Je serai aussi très bref. Moi, je travaillais un peu pour la MONUSCO, hein, étant mécanicien. Je comprends que tout ce que les allégations que le président Kagame dit, il aurait déjà résolu ce problème, puisque lui-même avait occupé la zone jusqu'à Kisangani, mais il n'avait pas extirpé ne plus qu'un seul FDLR. Mais l'erreur aussi de notre côté, notre gouvernement ne nomme que les généraux Tutsi au nord Kivu. Donc ces généraux-là, au lieu de travailler pour la RDC, ils complotent contre la RDC. Donc on doit changer, prendre des commandants de l'Équateur, du Kasaï, les organiser pour garder ces côtés-là. Les commandants Tutsi, on peut les envoyer au centre du pays. Puisque je sais que quand j'étais à la MONUSCO, nous partions à Mouhangi récupérer les FDLR et on les enregistrait, on les renvoyait au Rwanda, mais le président Kagame les entraînait et les renvoyait au Congo, puisque c'est ça son alibi. Mais il est en train de salir la réputation des Nations Unies qui a fait un grand travail au niveau de Lubero, de Mouhangi, récupérant les FDLR, les renvoyant au Rwanda. Je pense que ce sommet ici, pendant ce sommet, on doit dire clairement à Kagame que les deux pays, le peuple des deux pays, ce sont des frères qui vivaient aisément. Il aura un temps, il va partir comme Mobutu est parti, mais il va laisser le peuple là, qui le laisse vivre en bonne relation.
Voilà. Donc voilà, pour vous Mathieu, le Rwanda qui conditionne la signature d'un accord de paix avec la neutralisation des FDLR, pour vous c'est vraiment un faux fuyant. Merci Mathieu depuis Kisangani. On va prendre le tout dernier, c'est Mina Monda qui nous appelle depuis Bukavu. Mina, vous avez la parole.
Bonjour Monsieur Marcel.
Vous avez aussi 2 minutes, allez-y rapidement.
Merci beaucoup. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gouvernement pour négocier avec l'M23 l'un des moyens de aider les pays à sortir de la crise sécuritaire ici au Kivu devrait être fait avec beaucoup plus de responsabilité et de vigilance. Parce qu'en droit, on a appris qu'on ne peut pas être jugé partout à la fois, sachant que la RDC est liée à des mauvais partenaires diplomatiques. Et c'est à cause de ça que nous subissons tout ce que nous sommes en train de dire. À un certain temps, on déclare les faits, mais les belligérants, en fait, l'ennemi ne veut pas observer ça. C'est pour cela que le cahier des charges que les rebelles vont présenter dans ce sommet, soit dans cette initiative de EAEC, ainsi la CROC, devrait être analysé de fond. Et parce que dans ça, il y a deux choses. Il y a certains agents, soit certaines personnes qui sont dans l'armée rwandaise agressée à RDC. C'est que nous devons quand même être, de mon point de vue, je devrais interpeller le gouvernement à beaucoup plus de lucidité, sachant que et la population de Goma est déjà prise otage dans cette atmosphère là-bas.
La communication n'est pas très, très bonne. Éminent, on est désolé, on ne peut pas continuer à vous suivre dans ces conditions. La communication est très, très mauvaise. Voilà, merci Éminent Mwanda d'avoir appelé depuis Bukavuva. Conclure avec notre invité Frédéric Kamani. Vous avez la parole et ça sera votre conclusion.
En conclusion, nous savons que la crise à l'Est permet au président Kagame de mettre en place ce qu'on appelle le dilemme de la sécurité, c'est-à-dire créer de l'insécurité à l'autre pour être en sécurité, et cela lui sert d'alibi pour venir, pour prétexte, chercher les F de l'air, mais on comprend qu'il y a des ambitions économiques, les ambitions géopolitiques qui le conduisent à là. Alors, pour contrer cela, il faut savoir que les relations internationales sont les relations de puissance, puissance à tous les niveaux. Et cela va permettre à ce que la RDC puisse rétablir la paix et la sécurité à l'Est. Pour terminer, nous pensons qu'aujourd'hui, le sommet qui va s'ouvrir à Dar es Salaam est un sommet de plus pour donner de l'espoir au peuple congolais meurtri par la guerre. Et cela passe par les garanties des belligérants, les recommandations coercitives, mais aussi au niveau interne, la réorganisation au niveau interne de la RDC et l'appui de la communauté internationale. Voilà ce qu'on peut attendre du sommet et à ce SADC qui va s'ouvrir, et que le peuple congolais a besoin de la paix, a besoin de la sécurité pour son émergence.
Voilà, le peuple congolais a besoin de la paix, de la sécurité pour son émergence. C'est toute la sous-région, même la région, qui a besoin également de la paix pour son développement. Merci Frédéric Kamani. Je rappelle que vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes aussi expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut à l'Est d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Je vous en prie.
Et voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Hippolyte Kapanga qui est à la mise, en nom de Jules Feza Bungunda qui l'a réalisé et coordonné, à Nelson Nyombe qui a assuré la diffusion en direct sur la plateforme digitale de Radio Capi, à savoir YouTube, Facebook et X. Au micro, c'était Marcel Gomoba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.